Eh bien, comme on a mentionné tantôt, aujourd'hui, c'est une journée spéciale qu'on va consacrer à la prière, une journée complète où on veut vraiment se tourner vers Dieu, chercher la face de Dieu, et pour que Dieu bénisse tous ces beaux projets qui s'en viennent. Et on veut lui présenter ces belles visions, et on veut gagner toute la région pour Jésus-Christ. Ce serait merveilleux d'avoir tout un réveil, un beau réveil. L'histoire a connu de beaux réveils tout à fait spectaculaires où des villes entières se sont tournées vers Jésus-Christ. L'histoire de l'Église, quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est arrivé. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et c'est ce qu'on souhaite. On veut que les gens puissent se tourner vers Jésus-Christ. On a toutes sortes de projets à vous présenter, une belle vision pour l'avenir, pour les prochains 10 ans. Et on veut mettre ça devant le Seigneur. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Hein? C'est-tu parfait? Juste avant qu'on amorce ce 10 ans, juste présenter ça devant le Seigneur, et quand le Seigneur met sa main, là, ça fait toute la différence. Une des choses qui est gros dans la vie d'une église, c'est des projets de bâtiment. C'est toujours gros, c'est toujours majeur dans la vie d'une église. Et une église qui, justement, est en train de faire des plans pour agrandir, parce que l'église avait connu un beau réveil, des gens qui s'ajoutaient, se convertissaient au Seigneur. Et ils avaient besoin de plus de place pour accommoder ce que l'Esprit-Saint est en train de faire, sauver des âmes et ajouter à l'Assemblée. Et une église qui était justement en train de projeter l'agrandissement, ils étaient en train de préparer les plans, sont allés voir leur pasteur, puis le comité de bâtiment a dit au pasteur, « On aimerait ça mettre votre nom, vous et votre épouse, sur la pierre angulaire de tout le bâtiment, parce qu'après tout, vous avez été fidèles depuis plusieurs années. » Et puis, Dieu a béni ce ministère ici, et certainement, vous avez fait partie de l'histoire de notre Église. Et on aimerait ça mettre votre nom là-dessus. Et le pasteur a répondu, « Écoutez, vous êtes très gentil, très généreux, pensez à moi, comme ça, il y a mon épouse. Mais j'aimerais vous demander de ne pas faire ça. J'aimerais vous demander d'écrire le passage dans 1 Corinthiens 10 qui dit que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. » Alors, j'aimerais que ce soit ça, qu'il soit écrit, tout pour la gloire de Dieu. Alors, aujourd'hui, si vous étiez pour passer devant le bâtiment, c'est écrit sur la pierre angulaire, pour la gloire de Dieu. Et c'est ça qu'on veut, comme Église. On veut tout faire pour la gloire de Dieu. Et c'est exactement ce que Paul va prier dans sa lettre aux Éphésiens. Et j'ai pensé, comme introduction à ce temps et à cette journée de prière, de tourner dans la lettre aux Éphésiens et regarder la prière de Paul. C'est une des prières de Paul qui se trouve au 3e chapitre, Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Alors, Éphésiens, chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire. Voilà le but de l'Église. Paul va terminer sa prière en donnant une gloire, en donnant la louange au Seigneur. D'ailleurs, Paul a de la difficulté à se contenir. D'ailleurs, sa prière commençait en fait au verset 1. Et ça devait commencer comme ça. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour païens, pour vous païens, trois points. Et là, il n'est pas capable de continuer sa prière. Il va ouvrir une parenthèse qui va fermer. Il reprend sa prière au verset 14. À cause de cela, vous voyez, même expression. À cause de cela. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Paul est en train, à mesure que Dieu est en train de lui donner la révélation de l'Église, parce qu'on peut dire que la lettre aux Éphésiens est un petit peu comme... C'est le dictionnaire de l'Église. Tu apprends à connaître l'Église à travers la lettre aux Éphésiens. C'est vraiment une description doctrinale, surtout dans les trois premiers chapitres, de ce que c'est que l'Église. De grandes doctrines profondes, ce qu'on appelle l'ecclésiologie, la doctrine de l'Église. Et Paul, Dieu lui donne cette révélation-là, et Paul est tout excité. Il a un cœur qui déborde. Hein? La Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Paul a le cœur plein de la révélation de Dieu, et à mesure qu'il est en train d'écrire, il est vraiment comme en louange. Il a de la difficulté à se contenir. Et pour comprendre et saisir cette louange, cette gloire qu'il donne à Dieu, il faut faire marche arrière. Et il faut regarder la prière de Paul. En fait, la prière de Paul se divise en deux parties. Premièrement, elle touche la question de l'amour de Dieu. Et deuxièmement, il célèbre la gloire de Dieu. Alors, quand on regarde la première partie où il est question de l'amour de Dieu, en fait, Paul va adresser trois requêtes au Seigneur pour les enfants de Dieu. Ce sont nos requêtes aussi. Paul est en train de demander trois choses pour l'Église de Jésus-Christ. Principalement, au début, c'était Éphésiens, mais ça va pour toutes les églises. Et sa prière, trois requêtes, est la suivante. C'est que les enfants de Dieu puissent mesurer l'immensurable, connaître l'inconnaissable et contenir l'incontenable. Ça semble presque contradictoire, mais vous allez voir, c'est la prière de l'apôtre Paul. Que l'on puisse mesurer l'immensurable. Ce qui est infini et ne se mesure pas, mais qu'il nous soit donné par l'aide du Seigneur de pouvoir mesurer l'amour de Dieu. Et il va commencer, et au verset 18, voici ce qu'il dit. Il parle de l'amour de Dieu et dit, ce que Paul demande, c'est que l'on puisse saisir et mesurer, et voici comment il dit, la largeur, la longueur, la profondeur, et la hauteur de l'amour de Christ. C'est comme si Paul cherche un moyen de pouvoir expliquer l'étendue, la grandeur de l'amour de Christ. Et la façon qu'il va le faire, c'est en parlant de largeur, longueur, profondeur de l'amour de Christ. Et ce qu'il demande, c'est que nous puissions saisir... l'étendue et la grandeur de l'amour de Christ. Et nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour pouvoir mesurer et vraiment saisir jusqu'où va l'amour de Christ. C'est quoi l'amour? La longueur de l'amour, la largeur, la profondeur. Comment ça se mesure, l'amour de Christ? Une belle illustration que j'ai lue l'autre jour, qui est à l'époque de Oliver Cromwell. Qui est un lord anglais et homme politique. Un jour, un jeune soldat a subi un procès militaire et il a reçu la sentence de mort. Et il devait être tué par balle au son de la cloche qui sonnait à tous les jours pour signaler le couvre-feu. Au son de la cloche, ça donnait le moment à tous les soldats que c'était le temps d'arrêter et c'était le couvre-feu. Et il avait donné l'ordre que ce soldat-là puisse recevoir sa sentence d'être tué par balle au son de la cloche. Mais voilà que ce jeune homme était fiancé, et sa fiancée est montée plusieurs heures avant le couvre-feu, et s'est littéralement liée, elle s'est attachée au battant de la cloche, au marteau intérieur de la cloche. Si bien qu'à l'heure du couvre-feu, quand c'était le temps de faire sonner la cloche a commencé à bouger, mais il n'y avait qu'un son sourd qui arrivait aux oreilles d'Oliver Cromwell. Et personne ne comprenait, aucun soldat, ni Oliver comprenait ce qui se passait. Et lorsqu'il a entendu ce son qui était sourd de la cloche, il a évidemment exigé aux soldats d'aller voir quel était le problème de la cloche, comment ça se fait qu'elle ne sonnait pas. Alors voilà qu'il y avait le soldat qui était placé avec en avant, il attendait sa peine capitale, les soldats avec leurs carabines, tout le monde attendait, et voilà qu'il était là. Et il attendait le son de la cloche, mais le son n'arrivait pas. Lorsque les soldats sont arrivés à la cloche, ils ont regardé en dessous, ils se sont aperçus qu'il y avait une femme pleine de sang, pleine de coupures, blessée, et qui était liée, attachée au marteau de la cloche. Alors, ce qu'ils ont fait, ils l'ont détachée, ils l'ont ramenée vers Oliver Cromwell pour lui montrer ce qui s'était passé. Et Oliver Cromwell était tellement touché de voir jusqu'où cette femme était prête à aller par amour pour quelqu'un d'autre, qu'il a laissé, il a donné l'ordre de laisser partir le soldat et il l'a pardonné. Et il a dit ceci, « Le couvre-feu ne sonnera pas ce soir. » Et c'est rendu que ça a resté dans l'histoire et c'est rendu écrit dans plusieurs livres aujourd'hui. Le couvre-feu, d'ailleurs, des livres intitulés comme ça, « Le couvre-feu ne sonnera pas ce soir. » C'est une bonne illustration qui veut donner à penser justement à l'amour de Christ. Jusqu'où Jésus-Christ était prêt à aller tellement il nous aimait et il voyait que nous avions une sentence qui était donnée compte tenu que nous étions pécheurs. On attendait le jugement de Dieu. On méritait le châtiment de Dieu. Et Jésus-Christ, dans le ciel, voyant nous qui sommes pécheurs, rebelles à Dieu, des étrangers, des ennemis, a vu notre condition, notre état dépourvu, et savait où on s'en allait. Seule la sentence nous attendait. Et Jésus-Christ s'est tourné à son Père et de dire, « Je vais y aller, je vais prendre la place des hommes et des femmes, je vais prendre leur place, et je subirai le châtiment à leur place. » C'est une façon d'illustrer un peu jusqu'où va l'amour de Christ, mais encore là, c'est tellement réduit comme illustration, c'est tellement petit comme illustration parce que l'amour de Christ est immensurable, c'est illimité, mais cette illustration montre que l'amour de Christ s'est sacrifié pour nous autres, pour les autres. Quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ? Pensons à la croix de Jésus-Christ. Quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ? Pensons au mur qui nous séparait les uns des autres et séparait les nations les uns des autres et que le sacrifice de Jésus-Christ a brisé. Si vous étiez pour visiter Israël, il y a un morceau d'un mur qui était à l'intérieur du temple que les archéologues ont découvert. Je l'ai vu, cette pierre-là. Et il était défendu d'entrer dans le temple pour les non-juifs. Il y avait une section où c'était écrit défendu d'entrer pour les non-juifs sous peine de mort. Tu ne pouvais pas entrer dans le lieu très saint où se trouvait Dieu, la présence de Dieu. C'était réservé qu'aux juifs, et c'était réservé qu'aux souverains sacrificateurs, mais même à ça, même les juifs pouvaient quand même s'approcher un peu du lieu saint, mais les non-juifs ne pouvaient pas se rendre. C'est comme s'ils étaient toujours gardés étrangers de Dieu. Il y avait comme un mur qui les séparait de la présence de Dieu. Et c'est exactement l'image que nous avons dans le Nouveau Testament du mur qui est notre péché, qui nous sépare d'avec la présence de Dieu. Mais Paul, qui est en louange, en train de bénir Dieu dans sa prière, il fléchit le genou au moment où il venait de terminer cette section-là, de voir comment le mur de séparation a été anéanti et brisé à terre par Jésus-Christ. D'ailleurs, nous lisons au verset 13, l'apôtre Paul qui dit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, c'est-à-dire les non-juifs, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, c'est-à-dire juif et non-juif, un peuple seulement, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix. Car par lui, les uns et les autres, nous avons maintenant accès auprès du Père dans un même esprit. » réalisez-vous que tous les non-juifs, c'est-à-dire vous, pour la plupart, vous avez été rapprochés de Dieu, comme les Juifs aussi, par Jésus-Christ. Lorsque tu viens à Jésus-Christ, tu deviens un homme nouveau, une femme nouvelle, et tu es en Jésus-Christ. Mais ça, c'est grâce à la croix. Jusqu'où va la grandeur, la hauteur, la longueur, la profondeur de l'amour de Christ? On pense à la croix. Et on pense aussi à ce mur qui a été brisé d'inimitié. Quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ? On pense aussi à l'incarnation, où Jésus-Christ a abandonné, a mis de côté toute la gloire qui lui revenait, toute la gloire des anges pendant l'éternité passée, où Jésus-Christ était traité comme le roi. Et voilà qu'il a tout mis ça de côté, nous dit Philippiens chapitre 2. Il a pris la forme d'un serviteur, il s'est incarné dans la forme d'un homme. Et il a obéi Dieu sans jamais pécher jusqu'à la croix. Et ça, c'est pour nous, parce qu'il nous aime. Jusqu'où va la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ? Pensons aux souffrances de Christ. Pensons à l'humiliation, au rejet, au mépris que Jésus-Christ a dû supporter par amour pour nous autres. Voilà jusqu'où va l'amour de Jésus-Christ. Mais cet amour est infini. Elle ne s'arrête pas là. La largeur de l'amour de Dieu, la longueur, la hauteur et la profondeur de cet amour est telle qu'il s'étend sur tous les peuples de la terre, couvre tous nos péchés, et cet amour est éternel. Il existait avant la fondation du monde et ne s'éteindra jamais. Voilà la longueur, la profondeur, la hauteur et la longueur, la largeur de l'amour de Dieu. Mesurer l'amour de Dieu, c'est impossible. Nous sommes en train d'essayer de mesurer l'immensurable. Ça ne se mesure pas. C'est infini. C'est tellement large, tellement grand. Et pourtant, c'est la requête de Paul. Paul le demande. Et non seulement ça, nous devons nous aimer les uns les autres en fonction de cet amour-là, comme cet amour-là. Et c'est ça qu'on veut prier. Dieu, donne-nous de pouvoir mesurer la profondeur, la largeur, la hauteur de ton amour. Donne-nous de pouvoir saisir jusqu'où va cet amour. Pourtant, ça ne se saisit pas. On ne peut pas tout le comprendre, mais Paul le prie. En d'autres mots, aide-nous à comprendre un peu plus la largeur et la hauteur et la longueur, la profondeur de cet amour. Plus qu'hier. La deuxième requête de Paul, c'est que l'on connaisse le grand amour de Jésus-Christ. Qu'on l'on connaisse personnellement, qu'on en fasse l'expérience. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Paul prie que l'on connaisse son amour, qu'on puisse l'expérimenter dans notre vie, personnellement, dans nos cœurs, dans notre façon de vivre, que cet amour de Christ soit répandu dans nos vies. Paul prie que l'Église saisisse cet amour et en fasse le leur. Et à mesure qu'on fait cet amour de Christ la nôtre, Jésus va pouvoir habiter en nous de plus en plus dans le sentiment, dans le sens d'être de plus en plus confortable dans notre vie. Parce que voyez-vous, le passage dit de sorte que Christ habite dans nos cœurs, réellement dans nos cœurs. Jésus habite dans nos cœurs lorsqu'on vient au Seigneur Jésus-Christ. Il vient en toi, il vient habiter dans ton cœur, dans ta vie. Mais Jésus veut prendre toute la place dans ta vie. Et pour prendre la place dans ta vie, ça nous prend cette grâce de pouvoir connaître de plus en plus qui il est et son amour, sa grâce et ses bontés. Paul prie que l'on connaisse l'inconnaissable, mais on commence à connaître l'amour de Christ quand on vient à Jésus-Christ. Avez-vous remarqué ça? Vous pouvez parler pendant des années de l'amour de Jésus-Christ, mais c'est vraiment quand tu viens à Jésus-Christ que tout d'un coup, tu réalises, « Hey, mon Dieu, comment Dieu m'aime! » Il y a quelque chose qui se passe quand tu viens à Jésus-Christ, c'est comme un voile qui s'enlève, que tout d'un coup, tu réalises vraiment ce que Jésus-Christ a fait. Lorsqu'on m'a présenté l'Évangile, je me rappelle une fois, j'ai été envahi par un sentiment de culpabilité. J'étais écrasé à genoux à côté de mon lit et j'avais cette lourdeur sur moi parce que il y a quelque chose qui s'est passé où je réalisais à quel point j'avais fait du mal à Dieu alors qu'il m'aimait tellement. Pourtant, jamais dans ma vie avant, j'avais eu cette lourdeur-là, ce sentiment de culpabilité. Je n'avais jamais réalisé l'amour de Dieu à ce point-là. C'est comme quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu avances un peu, tu commences à connaître, par expérience, tu commences à connaître un peu plus l'amour de Dieu. Vrai? Et ça, ça continue à mesure que tu étudies les Écritures, que tu entretiens ta relation avec Dieu. Et c'est ça qui est beau, parce que quelqu'un qui connaît le Seigneur depuis plusieurs années, tu prends des M. Phillips, des gens, j'ai rencontré des gens à Toronto qui ont 50 ans de vie chrétienne, tu les écoutes parler, tu veux les entendre. Ils parlent de l'amour de Dieu, ils parlent de Dieu là comme, c'est du miel. Et ça continue ça. Et c'est la prière de l'apôtre Paul, que l'on puisse connaître ce qui est en fin de compte inconnaissable. Parce que l'amour de Dieu est tel qu'on ne peut pas la mesurer ni vraiment la connaître à toute sa splendeur. Troisièmement, la requête de Paul est que l'on contienne l'incontenable. Paul prie de connaître, qu'on connaisse l'amour de Christ, verset 19, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que c'est possible d'avoir le Dieu Tout-Puissant pleinement en nous? Pleinement, dans sa totalité. Mais pour ça, il faudrait être parfait, hein? Nous sommes parfaits en Jésus-Christ, mais certainement, Jésus-Christ nous remplit du Saint-Esprit. Mais vraiment, là, Paul, on peut dire que Dieu est incontenable. Salomon a fait la prière lorsqu'il a construit un bâtiment. Et il a dit, voici ce qu'il dit dans un des passages de l'Ancien Testament, 1 Roi 8, qui dit, Dieu, il fait le temple, et voici ce qu'il dit, « Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur, que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as bâti. Là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur, de ton peuple Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux. Exauce et pardonne. » Et on voit la nuée descendre, entrer dans le temple. C'est comme Dieu donnait sa confirmation qu'il va habiter parmi nous, en plein milieu du peuple. Le Dieu d'amour et l'amour de Dieu est si majestueux, si grand, qu'elle ne se mesure pas, elle ne peut pas être contenue comme telle. Néanmoins, Dieu, par son esprit, vient habiter en nous. C'est presque contradictoire. Mais prions pour ça. Prions que l'on puisse mesurer l'immensurable. Prions que l'on puisse connaître l'inconnaissable. Prions que l'on puisse contenir l'incontenable. Parce que Dieu le fait. Et quand il le fait, lorsqu'on grandit dans la connaissance, lorsque l'on grandit à saisir davantage l'amour de Christ, lorsque l'on grandit dans la plénitude de Dieu, on est fortifié par son esprit, verset 16. Christ habite vraiment dans nos cœurs, verset 17, où il est bien en nous. Nous sommes en plus une Église fondée sur l'amour. Alors, notre prière, c'est que l'on puisse mesurer l'immensurable, connaître l'inconnaissable et que l'on contienne l'incontenable. Et ça, c'est la première partie du passage. Ensuite, Paul va parler de la puissance de Dieu. Et les deux vont ensemble. Tu as l'amour de Dieu et la puissance de Dieu qui surpasse toute connaissance, qui surpasse notre compréhension. Ça ne peut pas être mesuré. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu et on ne peut pas mesurer la puissance de Dieu. C'est impossible de mesurer. Comment ça se mesure, ça, la puissance de Dieu? Ça ne se mesure pas. Paul va dire, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. » C'est fort parce que la puissance de Dieu qui est immensurable, qui ne se mesure pas, agit en nous. Nous avons la puissance de Dieu en nous. C'est là. C'est en nous. C'est ça que Paul est en train de dire. Et Paul demande au Seigneur que l'on puisse comprendre ça, que cette puissance est en nous. C'est important de comprendre que nous avons la puissance de Dieu en nous. C'est vital que l'on comprenne ça. Réalises-tu que quand tu pries et tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu entend et sa puissance est avec toi? C'est ça que Jacques va dire. Jacques va dire dans Jacques 5, dit « La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Pendant longtemps, on avait traduit ça, la prière fervente du juste, laissant entendre quasiment que la puissance de notre prière reposait sur notre intensité émotionnelle. La prière fervente. Il fallait que tu pries avec ferveur. Mais Louis II a comme modifié ça dernièrement, mieux traduit l'original, et ça dit simplement la prière mise en œuvre. Le chrétien qui prie est efficace. C'est d'une simplicité tellement déroutante. Le chrétien qui prie est efficace. Voilà ce que ça dit. Pense-y. Lorsque tu ouvres la bouche et tu commences à parler à Dieu et tu apportes une requête à Dieu, tu es efficace. C'est une promesse que Dieu donne. Tu es beaucoup plus puissant que tu penses. Emmène ta foi le plus loin. Étire ta foi le plus que tu es capable. Et Dieu va te dire, alors que tu es là à ton maximum de ta foi, Dieu va dire, je suis capable d'en faire plus. Amène-la là, je suis encore capable d'en faire plus. Je veux en faire plus. Je peux faire plus. Des fois, tu vas prendre un projet, puis tu vas dire, oh boy, ça va prendre la foi pour ça. Puis là, tu es tout impressionné, puis tu es tout comme dépassé par le projet. Puis tu dis, mon ami, on n'arrivera jamais à faire ça. Mais sais-tu, lorsque tu es impressionné toi-même jusqu'où est allée ta foi pour mettre sur pied un projet, Dieu te regarde et t'en vient de te dire, je suis capable d'en faire bien plus que ça. T'impressionneras jamais le Seigneur par ta foi. Parce que ta foi va toujours tomber en bas de ce que Dieu est capable de faire. Amen. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. On l'a vu avec le bâtiment. Nous, on avait des petits projets de bâtiment. Dieu dit, je suis capable d'en faire bien plus. Puis il l'a fait. Je suis capable d'en faire plus. Nous, on avait quelques petits sacs qu'on emmenait au panier de Noël. Dieu dit, je suis capable d'en faire bien plus. Tu vas devenir la plus grande banque alimentaire de toute Longueuil. C'est incroyable, pareil. Nous, on était là. On va-tu arriver à Noël avec tous tes paniers-là? On a-tu assez? On est correct? On a commencé demain. Vous auriez dû nous voir. Mon ami, on était très timide. T'adoptes un budget. Par la foi, Dieu le regarde et il dit, je suis capable de faire bien plus que ça. C'est incroyable, hein? Jusqu'à temps que tu vas étirer ta foi, Dieu te regarde et dit, je suis capable de faire bien plus que ça. C'est pour ça que Paul prie et dit, hey, que Dieu vous donne de connaître la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu et de sa puissance. C'est pour ça que Paul arrive à la conclusion, puis qu'à se retenir, il commence à louer le Seigneur. Là, il dit, louez avec moi, là. Puis il va louer le Seigneur. Paul prie pour que nous connaissions l'inconnaissable de l'amour de Dieu. Ensuite, il parle de la puissance illimitée de Dieu. Et ce qui arrive dans ce temps-là, lorsque l'amour de Dieu, la puissance de Dieu est ensemble, marche ensemble, tu ne peux pas faire autrement que d'exploser dans un temps de louange et tu veux donner gloire à Dieu. C'est ça qu'il fait au verset 21. À lui soit la gloire. Dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Alors, notre Église est appelée à montrer la grandeur de l'amour de Dieu, la grandeur de sa puissance, et ainsi célébrer la gloire de Dieu. Et c'est dans la mesure qu'ensemble, on puisse connaître l'inconnaissable, qu'on puisse mesurer l'immensurable, et qu'on puisse contenir l'incontenable, qu'on va glorifier le Seigneur. Parce que les gens tout autour vont voir l'amour de Dieu ici qui se répand de plus en plus et la puissance de Dieu qui se manifeste de plus en plus. Et c'est ça qu'on veut. Et ce matin, on va se diviser en petits groupes, puis on va prier le Seigneur. Et que le Seigneur nous donne justement de manifester son amour et sa puissance au sein de notre Église. Amen. Alors, on va essayer de faire quelque chose. C'est pas évident. On va essayer de se mettre en petits groupes. Alors, essayez où vous êtes. Ça n'a pas besoin de faire un gros déménagement. Juste où vous êtes. Tournez votre chaise comme juste l'autre côté. Dans le fond, vous allez tomber face à face. Essayez peut-être de se mettre en... Prenez quelques secondes pour ça, là. On ne prendra pas trop de temps, là, mais juste tournez votre chaise.